L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous heureux?
Oui.
Gloire à Dieu. Moi, je suis content. Je suis content d'être un enfant de Dieu et de vivre la présence de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Je suis tellement content de ne pas être religieux. Les gens, des fois, s'imaginent qu'on est religieux parce qu'on va à l'église. On n'est pas religieux. On a une relation avec Jésus. C'est différent, ça. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content parce que Jésus est victorieux et le diable est défait. Ça me donne une raison de me réjouir. N'est-ce pas merveilleux? Jésus est victorieux. Et puis, il nous donne une belle vie. Gloire à Dieu. On va juste pencher nos têtes. On va remettre cette portion maintenant au Seigneur. Père éternel, on te remercie. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta bonté dans nos vies. On te remercie, Seigneur, pour ton Fils Jésus que tu as envoyé à la croix pour payer notre dette de péché. On te remercie, Seigneur, parce que sans toi, on n'est absolument rien. Et aujourd'hui, on se présente devant toi, tes enfants, disant, on veut recevoir de toi. On veut recevoir cette portion que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es dans cette maison, tu es avec nous en ce moment. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu ouvres nos yeux pour voir les choses que tu en réserves pour nous et tu ouvres nos oreilles, Seigneur. Merci parce qu'on va entendre ta parole. Merci pour ton onction qui travaille en ce moment dans cette place. Ton onction qui travaille sur chaque personne ici et au-delà de cette maison, même sur Internet et à la radio en ce moment, on te remercie parce que ton onction travaille et nous déclarons que l'onction détruit le joug en ce moment, le joug de l'ennemi. Nous te remercions, Seigneur, pour cette victoire que tu nous donnes en toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est ici. Amen. Je ne sais pas si vous savez, là, mais la présence de Dieu est ici. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. La semaine passée, on a commencé une série sur la sagesse. Et puis, on va poursuivre aujourd'hui sur la sagesse. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Matthieu chapitre 17. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie excitante. Je trouve ça tellement excitant d'être un enfant de Dieu. Parce qu'on vit des expériences avec Dieu. Savez-vous ça? On est censé vivre des expériences avec Dieu. Des expériences où la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Où Dieu nous touche. Amen. Dans Matthieu chapitre 17, je vais vous lire un passage concernant la transfiguration. Vous connaissez ce passage-là? 6 jours après, on va commencer au premier verset, donc Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Imaginez si vous étiez dans ce regroupement-là. Admettons, vous étiez un des disciples du Seigneur Jésus. Et là, Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean. Il vous attire. Hey, venez avec moi. Aimeriez-vous ça, être attiré par le Seigneur Jésus? Il dit, hey, venez avec moi, vous trois-là. Il y en a 12 pourtant, 12 disciples, mais pourtant il dit, hey, vous trois-là, venez avec moi. Ça, c'est merveilleux. C'est la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Ça, on appelle ça être les chouchous du bon Dieu. Amen. Il fut, là on parle de Jésus, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Imaginez là, je vais recommencer parce que vous ne m'avez pas suivi. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Pouvez-vous voir une belle montagne? Monter une montagne avec Jésus. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Imaginez le visage du Seigneur Jésus qui resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Quelle bonne réplique. Quel bon commentaire profond. Imaginez, et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui, avec Jésus. Donc, on voit ces trois disciples du Seigneur voient Moïse et Élie et Seigneur Jésus qui sont là ensemble. Wow! Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Ici, on parle du nuage de la gloire de Dieu, le Shekinah ou le Shekinah, qui est descendu. Et là, c'est dit celui... OK, au verset 5. « Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. On voit dans ce passage-là, ici, une belle expérience que les disciples ont eue, n'est-ce pas? Voir la transfiguration du Seigneur Jésus, voir la gloire de Dieu, le nuage qui descend, la gloire de Dieu, comme le soleil qui apparaît sur le visage de Jésus. Mais remarquez ce qui se produit quand cette chose-là arrive. On voit, ils se prosternent à terre. Ça nous dit, au verset 6, « Lorsqu'ils entendirent cette voix, la voix du Père, les types tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. » Savez-vous pourquoi? Ici, c'est la crainte de l'Éternel, une révérence pour Dieu. Mais Jésus s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et puis, j'avais juste à cœur de vous lire ce passage-là avant d'aller dans le message, parce que même si j'ai commencé à prêcher, c'est un passage que j'avais à cœur juste pour souligner le fait qu'avec Dieu, on va avoir des expériences glorieuses. Avec notre Dieu, on peut s'attendre de vivre des expériences glorieuses. Si vous croyez ce livre, si vous croyez la Bible, amen. Mais on veut s'attendre de vivre la gloire, le nuage de la gloire de Dieu qui se présente. Et c'est sûr que quand Dieu se manifeste et la voix de Dieu est entendue, la crainte de l'Éternel nous saisit. Mais vous savez, Dieu nous appelle à marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais je veux juste vous rappeler aujourd'hui que la crainte de l'Éternel se réfère plutôt à une révérence de Dieu, une révérence pour notre Dieu. Donc, ce n'est pas qu'on a peur de s'approcher de Dieu, mais qu'on a cette révérence, on a ce respect profond pour notre Dieu. Et vous savez, j'ai reçu un courriel cette semaine d'un internaute, puis j'ai trouvé ça spécial, que la personne m'écrit, il faut me dire ça. Mais la personne écrivait pour dire, « J'ai écouté le message de la semaine passée, et puis je n'ai pas aimé ça. Je résistais tout au long de la prédication. » Avez-vous déjà résisté lors d'une prédication? Ça se peut. Mais là, il me disait dans son courriel, « J'ai résisté, mais ensuite Dieu m'a dit de réécouter l'enseignement. » C'est spécial, hein? Parce que Dieu voulait lui donner un message. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est juste se rappeler que Dieu nous appelle à vivre cette révérence pour son nom, mais notre chair ne veut pas marcher dans cette révérence-là. Notre chair va s'opposer, va devenir rebelle contre l'appel de l'Esprit de Dieu. Mais si votre esprit peut dominer sur votre chair, vous allez sortir victorieux aujourd'hui. Vous allez sortir victorieux, sachant que mon esprit a dominé sur la chair. Amen. Vous n'êtes pas obligé d'être dominé par votre chair, mais vous pouvez dominer sur votre chair. Et puis moi, je me suis réjoui quand j'ai lu ce courriel-là. J'ai trouvé ça spécial que la personne m'envoie ce courriel-là pour me dire « je résistais ». Mais on se dirait, ben, si tu résistes, la chair ferait juste clic. C'est facile, mais éteindre, n'est-ce pas? Quand on est sur Internet, c'est plus facile. Mais ici, vous ne pouvez pas appuyer sur clic. Vous êtes là. Mais gloire à Dieu, Dieu vous donne la grâce. Amen, Dieu vous donne la grâce. Ça, c'est l'autre piton. Vous allez cliquer sur la grâce de Dieu quand vous êtes dérangé. Mais ce qui est merveilleux, ce matin, j'ai vraiment quelque chose que je crois va vous bénir et je crois qu'il y a des destinées en Dieu qui vont être sauvées aujourd'hui. Je crois vraiment que Dieu veut sauver des destinées aujourd'hui. Et le message, j'ai hâte de vous prêcher ça, puis je prie que je puisse vraiment y arriver. Mais vraiment, je crois que le diable, lui, il attaque votre destinée. Il veut vous empêcher de vivre ce que Dieu vous appelle à vivre. Il va travailler beaucoup au niveau de vos pensées. C'est le territoire de notre guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Donc, l'ennemi va toujours travailler dans vos pensées pour vous diriger vers le bas, Mais aujourd'hui, votre esprit reçoit la parole de Dieu et vous allez choisir d'aller vers le haut. Amen. Gloire à Dieu. On va aller ensemble, on va progresser. Donc, juste pour vous rappeler un peu, si on parle de la sagesse, la clé de la sagesse, comme nous avons vu la semaine passée, concernait la crainte de l'Éternel ou cette révérence pour notre Dieu. La sagesse des hommes concerne souvent les discours. Quelqu'un va avoir un beau discours, un beau vocabulaire, peut-être des textes profonds, et puis les gens vont s'imaginer, waouh, c'est une personne très, très sage, mais pourtant, il y a des personnes qui sont comme ça, qui peuvent bien parler, tout ça, mais en fait, ils vont même mépriser Dieu. Et la Bible dit qu'ils n'ont même pas le commencement de la sagesse. La Bible dit que les gens qui ne croient pas en Dieu, en fait, ces gens-là sont insensés. Dites insensés. Insensés. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Mais la sagesse de Dieu implique vraiment la révérence de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut traduire la révérence pour Dieu? En fait, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, même si moi je ne suis pas d'accord avec Dieu, si j'ai une révérence, une crainte pour mon Dieu, je vais dire, Seigneur, tu le dis, et je vais changer mon opinion pour que ton opinion puisse vraiment être l'autorité dans ma vie. C'est ça qu'on a vu pendant une heure la semaine passée. Je vous rappelle, la parole de Dieu est l'autorité ultime et finale dans nos vies. Donc, le sage écoute la parole de Dieu. On a vu Ésaïe chapitre 1, verset 2, et le psaume 119, verset 89. Et l'insensé la méprise et fait à sa tête. Ça, c'est l'insensé. Il va mépriser la parole de Dieu. Il va faire à sa tête. Et dans Proverbe 14, verset 12, on a vu « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, on ne veut pas être dirigé par notre chair. On veut être dirigé par la parole de Dieu qui nous fait jamais prendre de mauvais chemins ou de détours. Amen. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre maintenant sur la puissance. Dites la puissance. La puissance de cette sagesse ou de la crainte de l'Éternel. Savez-vous que lorsque vous marchez dans la crainte de l'Éternel, vous vivrez une vie puissante en Dieu. Une vie puissante, une vie de victoire, une vie de percée dans vos vies, une vie dans la joie. Dieu vous appelle à vivre la joie de Dieu. La joie du Seigneur est notre force, le croyez-vous? La joie du Seigneur est ma force, mais cette joie-là se manifeste lorsque nous marchons selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, une des choses que j'avais à cœur de vous partager ce matin, et je veux aller assez rapidement dans ces points-là parce que je veux vraiment décortiquer des choses concernant la sagesse, vraiment sur l'aspect pratique de vos vies. Parce que Dieu veut sauver vos destinées aujourd'hui. Et une fois que vous allez savoir ces choses-là, vous pourrez être la police pour vraiment protéger ce que Dieu vous a donné et ce que Dieu vous appelle à faire. Je peux même vous dire qu'il y a des temps que je suis à la maison, dans mon lit, Dieu me donne des rêves de certaines personnes dans la maison. Et Dieu m'a même montré des guerres spirituelles dans lesquelles vous êtes engagés. Et des fois, j'aimerais ça vous dire, écoute, je sais ce que tu vis, mais si je vous dis trop de détails, je vous donne des détails, vous allez peut-être faire des choses, vous allez vouloir honorer Dieu parce que je vous ai dit des choses. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit par après, « Ah, mais si tu me l'avais dit, j'aurais fait ça. » Mais justement, Dieu recherche les cœurs obéissants, pas les cœurs qui connaissent les choses à l'avance. Dieu recherche la foi. Amen. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des gens que des fois, j'ai partagé des choses après coup, puis ils m'ont dit, « Ah, mais si tu me l'avais dit? » Oui, si je te l'avais dit, mais là, tu n'aurais pas eu besoin de beaucoup de foi. Parce que là, j'aurais dit des choses sur ta vie que seul Dieu pouvait connaître. Mais je peux vous dire, ce matin, si vous êtes dans cette maison, et vous êtes là, n'est-ce pas? Je vois pas des fantômes. Vous êtes dans cette maison. Le diable s'est attaqué à certains d'entre vous, et puis il voulait vous cribler, vous casser les jambes, vous empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, vous êtes à la bonne place parce que vos oreilles vont entendre ce que Dieu a en réserve pour vous et votre esprit peut choisir aujourd'hui de dominer sur la chair et de fermer la porte au diable. Amen. La puissance de la crainte de l'Éternel ferme la porte au diable et préserve votre destinée. Dans le psaume 119, on va aller ensemble dans le psaume 119 et le verset 9. Le psaume 119, verset 9, nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi.com tes statuts. » Oups. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Voyez-vous, si votre visage est comme ça, c'est parce que vous ne suivez pas les préceptes de Dieu. Mais si vous suivez les préceptes de Dieu, la Bible dit « Je me réjouis ». Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut changer votre... Dieu veut changer ça aujourd'hui. Amen. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Gloire à Dieu. Donc, une des choses très simples que je voulais juste vous mentionner ce matin, c'est que la crainte de l'Éternel, cette révérence pour Dieu va fermer la porte au diable et préserver votre destinée, va vous empêcher de prendre des détours parce que vous suivez la parole de Dieu, tout simplement. Gloire à Dieu. Si vous avez pris un détour, vous pouvez vous repentir et dire, « Seigneur, je me suis trompé », et vous revenez au Seigneur dans le bon chemin. Savez-vous, ceux qui refusent de revenir sur le bon chemin, c'est juste les gens orgueilleux. Il y a des gens qui aiment mieux dire, « Ben, je ne veux pas avouer que je me suis trompé, je vais poursuivre sur ma route toute ma vie, je vais poursuivre selon la décision de mon passé. Dans le passé, j'ai pris cette décision-là et dans mon esprit, je sais que je suis sur le mauvais chemin, mais je vais poursuivre sur ce chemin-là parce que ça serait humiliant de revenir et avouer que je me suis trompé. » Mais imaginez passer toute votre vie à côté du plan de Dieu au lieu d'être dans le plan de Dieu. La seule raison pourquoi quelqu'un ferait ça, c'est à cause de l'orgueil. L'orgueil. Mais vous savez, on peut marcher sur notre orgueil, on peut piler sur notre orgueil et dire « je me suis trompé ». Qui s'est pas trompé dans la vie? On s'est tous trompés. Moi, j'aime mieux voir des fois des gens qui me racontent, qui me disent « je me suis repenti, je suis revenu là où Dieu m'avait dit et gloire à Dieu, j'avance ». Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on puisse avancer. Et puis, nos erreurs sont mises dans la maille de l'oubli et on a une belle vie bénie. Évitez les détours en suivant le Seigneur. Amen. Et puis, la crainte de l'Éternel vous accorde la promotion divine. Dites la promotion divine. La crainte de l'Éternel vous accorde des promotions dans vos vies. Combien d'entre vous voulez marcher sur place toute votre vie? Mais vous voulez plutôt avancer, n'est-ce pas? On veut avancer dans les voies de Dieu et Dieu veut vous élever. Si on s'humilie, Dieu veut vous élever, la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu veut m'élever, moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de coopérer avec le Saint-Esprit pour que ça puisse arriver. Amen. On a vu le texte la semaine passée, je vais relire rapidement, concernant la sagesse dans Proverbes chapitre 4, verset 8, ça dit « Exalte-la, et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses, si vous aimez vraiment la sagesse. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. » Une couronne de grâce. Si je poursuis la sagesse de Dieu, Dieu va me couronner de sa grâce, de sa faveur surnaturelle. La faveur de Dieu. Quand Dieu est pour vous, qui pourra être contre vous? Qui sera contre vous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais croyez-le. Mais si Dieu est contre vous, qui peut être pour vous? Mais si Dieu est pour vous, vous répondez à l'appel de Dieu et peut-être vous avez répondu à des choses, peut-être Dieu vous a appelé à faire des choses et puis même à ce moment-là, ça ne vous tentait pas, votre chair ne voulait pas le faire, mais vous avez dit « Oui, Seigneur, la promotion de Dieu s'installe dans vos vies. » Et c'est ça qu'on veut vivre. Dieu veut promouvoir ses enfants. Dieu le veut. Et puis moi, je dis, oui, je le veux aussi. Amen. Donc, ça nous dit, la sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Ça veut dire, Dieu va vous glorifier pour qu'on puisse le glorifier en retour. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Voyons, on peut décider combien de temps on va vivre. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Mais Dieu nous a dit qu'il va nous rassasier de longs jours. J'ai déjà prié pour quelqu'un qui était malade. Et puis, j'étais à l'hôpital, j'ai dit à la dame, j'ai dit, « Êtes-vous rassasié? » « Non, j'aimerais ça vivre longtemps. » J'ai dit, « Bien, continuez à vivre. Je vais m'accorder avec vous. » Amen. Parce que Dieu veut nous rassasier de longs jours. Puis ça nous dit au verset 11, « Je te montre la voie de la sagesse. » Je te conduis dans les sentiers de la droiture, les sentiers de la justice, mais les sentiers de la justice sont également les chemins de la droiture. Voyez-vous, la droiture, c'est pas tout croche avec Dieu. C'est ça que j'aime avec Dieu. Mon Dieu, c'est pas un croche. Amen. Mon Dieu, c'est pas un croche, puis il m'envoie pas dans des détours, des précipices. Mon Dieu me conduit sur le sentier de la droiture. Et Dieu veut vous diriger comme ça aussi. Amen. C'est pour chacun d'entre nous. Si, mais là, il y a une condition. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Parce que, pourquoi? Parce qu'on suit le Seigneur. Amen. Donc, la promotion divine lorsque nous avons la crainte de l'Éternel. Et puis aussi, la crainte de l'Éternel vous maintient dans l'honnêteté. Vous maintient dans l'honnêteté. Amen. Et puis, je vais lire un texte rapidement. Venez avec moi dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Et puis ensuite, on va aller dans une portion maintenant vraiment pratique pour votre propre vie. Parce que je crois, si on peut appliquer ces choses-là, vous verrez, c'est comme une recette en partie pour des choses que Dieu vous appelle à faire, pour vous positionner pour ce que Dieu veut pour vous. Mais la crainte de l'Éternel va toujours vous garder dans la droiture et puis va vous maintenir dans l'honnêteté. Dans Luc chapitre 12, verset 1, il est écrit, « Sur ces entrefaits, les gens étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns aux autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, dites avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Ici, Jésus a dit à ses disciples, avant tout, de toutes les choses possibles pour vivre vraiment la crainte de l'Éternel, on doit éviter cette chose-là, le levain des pharisiens. Jésus disait, ne soyez pas des hypocrites. C'est ça qu'il disait à ses disciples. C'est intéressant, n'est-ce pas? Saviez-vous, je vais vous annoncer une chose, saviez-vous que parfois dans les églises, on retrouve des hypocrites? Saviez-vous, je sais, vous êtes surpris de ça, que dans les églises, il peut y avoir des hypocrites? J'entends des gens dire, oui, bien sûr, c'est sûr, puis il y a plein de gens, ben oui. Parce qu'il y a des gens même qui disent, moi, je ne fréquente pas d'église parce qu'il y a des hypocrites à l'église. Mais demandez la question à ces gens-là, allez-vous chez Walmart? Saviez-vous qu'il y a des hypocrites chez Walmart? Combien d'entre vous, vous allez faire l'épicerie? Saviez-vous qu'à l'épicerie, il y a des hypocrites là-bas? Combien d'entre vous, vous travaillez? Saviez-vous qu'à votre lieu de travail, qu'il y a des gens hypocrites aussi? Il y a des hypocrites partout. Mais dans l'Église, on n'est pas censé être hypocrite. Hypocrite, c'est avoir deux visages. Hein? Dieu veut qu'on soit authentique, transparent. Est-ce que la transparence veut dire qu'on va dire tout ce qu'on pense tout le temps? Non. Je vais en parler peut-être plus tard. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Alors là, je vais juste vous avertir, c'est à ce moment-là que votre chair est en train de trembler. Puis je le déteste, ce pasteur-là. C'est à ce moment-là, je voulais juste vous le dire. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Vous pensez que c'est un secret, cette chose-là? Mais la Bible dit que ça va être amené dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, Jésus a dit ça à ses amis-là, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux, en parlant des hommes, qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui. C'est qui a le pouvoir? C'est Dieu ici. Craignez Dieu. C'est lui que vous devez craindre. Donc, on vient de voir trois choses ici concernant la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Ferme la porte au diable. Voulez-vous que la porte du diable soit fermée dans vos vies? Amen. Mais gloire à Dieu. Il y en a quelques-uns. Pour les autres, je vais continuer à prêcher, puis peut-être à la fin de la réunion, vous allez être convaincus. Mais pour ceux, vous voulez vraiment que la porte de l'ennemi soit fermée à tout jamais dans vos vies? Amen. Amen. Alléluia. et vous voulez que votre destinée soit préservée. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez avoir la promotion de Dieu dans vos vies. Amen. Et vous voulez marcher dans l'honnêteté. Vous voulez pas être hypocrite. Bien, la crainte de l'Éternel va vous préserver de toutes ces choses mauvaises. Il va vous préserver dans la crainte de l'Éternel va vous préserver vraiment dans le chemin de Dieu. C'est simple, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire? C'est simple comme bonjour. Dites bonjour. Bonjour. Hey, c'est simple, ça. Maintenant, gloire à Dieu. Il y a des choses de base qu'on vient de voir. Des choses de base. Mais si on se dit, j'ai la crainte de l'Éternel, ça veut dire, même si je suis avec ma femme, et puis je peux parler de mon cœur, certainement, mais je vais me rappeler que je ne veux jamais parler en mal de quelqu'un. Parce que je sais que les secrets vont être révélés plus tard. Ce que je dis dans les ténèbres vont être révélés dans la lumière. Waouh, c'est profond ça, hein? On se dit, mon Dieu, je ne pensais pas que c'était vrai. Mais ça a l'air que c'est dans la Bible. Ceci veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir notre cœur à notre femme? Certainement pas, j'ouvre mon cœur à ma femme. Mais je dois faire attention, même lorsque je parle à ma femme, que je sois sensible et conscient que le Saint-Esprit m'est témoin. C'est vrai, parce que tout ce que je vais déclarer de ma bouche est une semence dans le monde spirituel. Dieu m'appelle à bénir tout le monde, même mes ennemis. Dieu m'appelle à bénir tout le monde. Amen. Sauf que même si je suis en privé, je peux vous dire, c'est pas facile à faire. C'est pas toujours facile. Mais si je suis conscient, Seigneur, aide-moi. Puis quand je tombe, savez-vous, les êtres humains, on tombe, hein? Ben, peut-être pas ici. Peut-être c'est juste dans cette section ici où les gens tombent, là. Ou peut-être dans cette section-là. Je vais venir ici. Mais vous savez, les êtres humains, on tombe. Mais on a besoin juste de se relever. Et réaliser, Seigneur, j'ai déclaré des choses de ma bouche qui étaient vraiment, c'est des choses qui n'étaient pas belles, où j'ai jugé mon frère, j'ai jugé ma sœur. Je te demande pardon. Et là, je veux bénir ce frère-là. Amen. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Amen. Gloire à Dieu. OK. Comprenons maintenant des principes incontournables de la sagesse. Là, on va voir des principes incontournables. Si vous voulez marcher dans la sagesse, la crainte de l'Éternel pour vos vies, je vais vous aider ce matin avec certaines choses. Une des choses que j'avais à cœur de vous partager, c'est la sagesse divine se compare toujours à Dieu et pas à son voisin. Si vous êtes sage, dans votre propre vie, vous allez vous comparer à Dieu et pas à votre voisin. Oh! Ouch! Dites « ouch! » Ça, c'est la sagesse. Si on est sage, tu sais, je vous ai dit, toutes les paroles qu'on va avoir prononcées en secret, elles vont être révélées, à moins qu'on demande pardon, puis on demande au Seigneur de nous laver de ces choses-là, si on a fait des choses qui étaient contraires au cœur de Dieu. Mais comprenez ceci, si on peut vraiment vivre là-dedans, on doit comprendre, c'est plus facile à faire si je me compare toujours à Dieu. Parce que quand je me compare à Dieu, je réalise que j'ai des manquements. Mais quand je me compare à mon frère, je peux dire, ben lui, il n'est pas aussi bon que moi. N'est-ce pas? Si je me compare à quelqu'un d'autre, je peux dire, je suis un petit peu meilleur que cette personne-là. N'est-ce pas? On dirait, je prêche à des gens qui dorment. Êtes-vous réveillés ce matin? Si je me compare à quelqu'un comme ça, la Bible dit, je vais vous lire le texte, ça dit qu'il me manque d'intelligence. En anglais, ça dit, il me manque de sagesse. Si je me compare à mon voisin, je vais vous inviter, venez avec moi dans 2 Corinthiens 10, verset 12. Ce matin, ce que je suis en train de vous donner, là, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là va changer vos vies si vous croyez la parole de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 12, nous lisons, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Parce que quand je me compare à mon voisin, je me compare dans l'horizontal. Mais si Dieu m'appelle à aller plus haut, je dois me comparer à Dieu. Et puis lorsque je regarde au Seigneur, puis je dis, Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, à ce niveau-là dans ma vie, j'ai besoin de marcher en plus d'amour. Je te vois, Seigneur Dieu, toi, t'as donné ta vie pour moi. T'es mort sur la croix pour moi. Je vois, Seigneur Dieu, qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Parce que peut-être je ne suis pas prêt à mourir pour mon ennemi en ce moment. Peut-être dans ma chair, j'ai le goût de frapper mon ennemi. Peut-être. Non? Peut-être dans ma chair, j'ai des réactions humaines. Et là, si je me compare à quelqu'un d'autre qui est pire que moi, là, je vais être encouragé. Je vais dire, oh, alléluia, je suis tellement saint. Mais si je me compare à Dieu, je vais réaliser, j'ai un bout de chemin à faire. Le résultat de ça, ça va me garder dans l'humilité, parce que je vais réaliser que je ne suis pas arrivé. Je vais réaliser que je ne suis pas arrivé, que j'ai encore du chemin à faire. L'Esprit de Dieu a encore besoin de changer les choses dans ma vie. Donc, ça va me garder dans l'humilité et ça va m'aider à ne pas me comparer à quelqu'un d'autre et à ne pas juger mon prochain, parce que j'ai du chemin à faire. Hallelujah! Gloire à Dieu. Amen. Donc, allons plus haut, allons pas à l'horizontale. Parce que savez-vous, quand on s'en va à l'horizontale, on se compare comme ça, puis si les autres sont vers une chute, vers le bas, on les suit puis on s'en va comme ça. On ne veut pas aller dans cette direction-là. On veut aller vers le haut. Amen. Et je prêche à moi-même parce que, savez-vous que je suis un être humain? Certains d'entre vous, des fois, vous ne savez pas. Des fois, il y a des gens qui sont là, puis je leur raconte des histoires de miracles que j'ai vécu dans ma vie, puis les gens sont là. Ouais. Bien là, tu étais pasteur, toi. Mais un pasteur, savez-vous, c'est en chair et en os. On n'est pas fait en rubber, rien. Non, on est des vrais êtres humains, puis on vit des vraies choses avec Dieu. Amen. On vit des vraies choses. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que les victoires que j'ai vécues et les percées que j'ai vécues ou les miracles, les bénédictions que Dieu m'a données sont possibles pour tous. Il n'y a pas de catégorie avec Dieu. La catégorie, très simple, c'est ceux qui ont une crainte de Dieu, qui veulent obéir. Ce n'est pas parce qu'on est super intelligent de nous-mêmes, c'est parce qu'on a simplement cette révérence pour Dieu et on veut marcher dans l'obéissance. Amen. Aussi, j'avais à cœur de vous partager d'une chose très importante. Si on veut aller vers le haut, des fois, on peut raisonner comme le monde et dire, moi, là, je veux que les gens m'acceptent pour qui je suis. Je veux être moi-même dans mes relations avec mes amis. Je veux être moi-même. Je veux être moi-même et je veux être accepté pour qui je suis. Est-ce que ça sonne bien, ça? Ça sonne bien, ça? On veut tous être acceptés, n'est-ce pas? On veut tous être aimés. Mais il y a un piège là-dedans. Je veux que les gens m'acceptent pour qui je suis. Je veux être moi-même. Mais là, on va arrêter quelques instants et examiner cette chose-là. Parce que des fois, on va dire ça, je vais être moi-même, mais est-ce que ce moi-même-là, c'est le moi-même de Dieu, transformé par Dieu, ou est-ce que c'est moi-même charnel? Est-ce que c'est cette personne charnelle que vous voulez demeurer? Ça, c'est un autre « ouch ». Parce que des fois, les gens disent, je vais être moi-même, je veux juste être moi-même, là. Mais peut-être Dieu vous appelle à être totalement transformé. Et vous allez devenir un autre moi-même. Ça descend peut-être ce matin. Est-ce que ce moi-même est charnel ou spirituel? Gloire à Dieu. Votre chair recherche son confort. Frères et sœurs, je vais vous dire, votre chair, notre chair recherche le confort. C'est une grande révélation ce matin, hein? Vous le savez déjà, je ne suis pas obligé de vous le dire. Votre chair recherche le confort qui vous attire vers le bas. Quand je vais être confortable, savez-vous, quand j'écoute un film, là, c'est rare que je vais monter dans l'escabeau. Hein? Ce que je vais faire, je vais m'écraser dans un fauteuil vers le bas. N'est-ce pas? C'est le confort. C'est normal, on va écouter un film, on va être assis, n'est-ce pas? On va s'asseoir, n'est-ce pas? Mais quand on va s'asseoir, on va s'asseoir vers le bas. Bon, on peut être confortable dans notre vie chrétienne et s'écraser. Mais Dieu nous appelle à aller plus haut. Donc, si on va plus haut, votre chair recherche son confort qui vous tire toujours vers le bas, mais votre esprit recherche à conquérir et à aller plus haut. Mais c'est qui que vous devez conquérir? Vous avez dit, ben c'est le diable. Non, Jésus l'a déjà gagné cette victoire-là. Jésus a déjà eu la victoire sur Satan. Là, ce qui vous reste, c'est à vous de marcher dans la victoire, dans votre esprit régénéré. Ça veut dire que mon esprit, la sagesse de Dieu, m'appelle à discerner aujourd'hui. Mon esprit doit discerner sur ma chair qui cherche le confort, qui recherche des détours, qui recherche des raccourcis, qui recherche toutes sortes de choses qui sont contraires à l'appel de Dieu sur ma vie. Satan vous appelle à être charnel. Dieu vous appelle à être spirituel. En fait, vous êtes spirituel, mais des fois, par les mensonges de l'ennemi, on a cru qu'on était charnel et on marche selon la chair au lieu de marcher selon l'esprit. Donc, vous savez, les moments, quand vous êtes dans une église et vous êtes inconfortable pendant les messages, c'est un bon signe. Savez-vous, quand vous allez au gym, Je sais que vous êtes tous au gym à chaque jour, là. Quand vous allez au gym et quand c'est facile, ça donne rien. Mais quand vous forcez un petit peu, il va y avoir un résultat. N'est-ce pas? Donc, quand vous êtes assis confortablement à l'Église de la Victoire du Québec et il y a des choses que votre chair dit, votre chair dit ça, là. Prenez le temps et dites, Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est ma chair qui n'aime pas ça? Ou est-ce que c'est toi, Esprit de Dieu, qui est attristé en ce moment? Et là, l'Esprit de Dieu, ça se peut fort bien qu'il va dire, c'est ta chair. Ça se peut fort bien. Ah, hallelujah! Bon, donc votre chair recherche le confort, recherche son confort qui vous tire vers le bas. Votre esprit recherche à conquérir et aller plus haut. Savez-vous, vous pouvez aller plus haut. Quand vous allez plus haut, vous avez une plus grande vision. Vous avez une vision de la gloire de Dieu quand vous allez plus haut. Quand vous regardez plus haut, vous avez une vision qui vous donne la joie de Dieu. Parce que vous ne regardez pas vers le bas, mais vous regardez vers le haut et vous voyez comme sur le sommet d'une montagne, vous voyez le pays que Dieu vous donne. Quand vous voyez le pays que Dieu vous donne, là où coule le lait et le miel, devinez ce qui se produit. La joie de Dieu vient s'emparer de vous. Vous êtes dans la joie parce que vous voyez ce que Dieu en réserve pour vous. Même si vous ne vivez pas encore dans la terre promise, vous voyez la terre promise devant vous et vous êtes rempli d'expectatives et vous êtes dans la joie parce que vous voyez devant vous, parce que vous avez la vision de Dieu pour votre vie. N'est-ce pas merveilleux, cette façon de vivre? Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen! Donc, voulez-vous aller plus haut aujourd'hui? Amen! Gloire à Dieu. La sagesse divine reconnaît humblement que les pensées de Dieu sont plus élevées que celles des hommes. Je ne vous apprends rien ce matin, mais les pensées de Dieu sont toujours plus élevées que celles des hommes. C'est important, on va établir un fondement parce qu'après, je vais vous aider à discerner les conseillers que vous devriez avoir dans vos vies. Parce qu'il y a des gens dans vos vies qui sont envoyés par l'ennemi pour vous diriger dans le plan de l'ennemi. Mais si vous discernez les conseillers, vous allez réussir dans votre vie chrétienne et vous vivrez des victoires. Imaginez si vous voulez vendre votre maison, vous allez voir un conseiller à la banque, ils vont vous parler peut-être des prêts hypothécaires, ils vont vous donner des informations qui concernent votre besoin, n'est-ce pas? Mais vous allez voir votre médecin puis vous demander des conseils sur des hypothèques, est-ce que ça se peut que ça va être des mauvais conseils? Oui, parce que même si le médecin est super spécialisé, il n'est pas spécialisé dans ce domaine-là de la vie. Et nous, les enfants de Dieu, des fois, on va voir des conseillers qui ne connaissent rien des choses de Dieu ou des personnes totalement charnelles qui nous dirigent vers le bas. Après, on se retrouve dans le bas et on se pose la question, « Mais comment ça m'arrive? » Mais peut-être vous avez été influencé par des mauvais conseillers. Donc, on va vouloir être conseillé par la parole de Dieu et discerner les conseillers qu'on veut avoir dans nos vies. Mais on n'est pas arrivé là encore. Alléluia, je me dépêche. Dans Ésaïe 55, verset 8, ça nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ici, il parle aux hommes. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Les voix de Dieu sont tellement plus élevées. « Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Frères et sœurs, des fois, on est là, on s'imagine humainement, là, on s'imagine, ah ben c'est juste ça qui peut m'arriver dans telle situation. C'est juste ça qui peut m'arriver. Mais les voix de Dieu sont au-dessus de vos voix. Dieu a des plus grands projets que vous pouvez imaginer. Des grands projets pour vos vies. Gloire à Dieu. Mais ici, là, il parlait aux hommes. Mais là, lorsqu'on est régénéré dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15, vous savez, on a l'Esprit de Dieu et là, on a la pensée de Christ. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15, ça dit, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Ici, ça dit « l'homme animal » ou « l'homme charnel » ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous recherchez un conseiller, par exemple, et puis cette personne-là, n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Vous pouvez raconter des choses et même partager votre cœur et dire, je crois que Dieu m'appelle à faire telle chose dans ma vie. Si la personne n'est pas spirituelle et si vous prenez les conseils de cette personne-là, vous pouvez faire fausse route. Parce que les hommes charnels ne reçoivent pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'elles sont pour lui une folie. Bon, et une autre chose, je voulais juste mentionner également. Pourquoi c'est important de parler de nos pensées lorsqu'on parle de la sagesse? Parce que dans Proverbes 23, verset 7, ça nous dit « L'homme est comme les pensées de son âme. Vous êtes les pensées de votre âme. La façon que vous pensez détermine où vous allez et où vous irez. » Je répète, la façon que vous pensez, c'est là où vous allez vous diriger. Si vous pensez « défaite », vous allez vivre la défaite. Si vous pensez « victoire en Jésus », vous allez vivre la victoire en Jésus. Si vous pensez les promesses de Dieu, la joie de l'Éternel, vous allez vivre la joie de l'Éternel. Mais si vous pensez « défaite », dépression, rébellion, découragement, vous allez vivre ce que vous pensez. Vous vivez littéralement aujourd'hui, vous êtes le produit de vos pensées et de vos déclarations. Ce que je vous dis, c'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 23, verset 7. L'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense que je ne vaux rien, hein, même si quelqu'un m'offre un beau cadeau, je peux dire, oh non, je ne mérite pas ça. Voyez? Et peut-être une belle opportunité dans la vie, peut-être je peux dire, ben oui, c'est là, mais c'est pour les autres. Parce que j'ai cru que c'était pour les autres, donc je n'ai pas vécu la percée ou la victoire ou la bénédiction que Dieu avait en réserve. Donc, l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, imaginez pourquoi Satan s'attaque toujours à vos pensées. Parce qu'il sait, si vous faites penser comme lui, comme il veut que vous pensiez, il peut vraiment réussir à vous détruire. Satan, c'est pour ça, là, il veut vraiment réussir, il veut avoir cette victoire-là dans vos vies. Amen. Satan veut voler les pensées de Dieu et vous donner ses pensées. Mais si vous êtes spirituel, vous allez discerner. Si vous êtes sage, un sage de Dieu, vous craignez Dieu, vous avez cette relation avec Dieu, et là, il y a une pensée négative qui rentre en vous. Vous avez le choix. C'est soit vous allez entretenir cette pensée, méditer sur cette pensée et devenir cette pensée, ou rejeter la pensée et remplacer la pensée avec la parole de Dieu et la promesse de Dieu. Si quelqu'un vous dit, bien, vous êtes malade et vous allez de pire en pire, vous faites remplacer cette pensée-là et dire, je suis le guéri de l'Éternel par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. T'es pauvre et tu vas faire faillite. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a tellement de promesses qu'on pourrait citer, mais vous devenez ce que vous croyez. Amen. Parce que vous êtes comme les pensées de votre âme. Donc, écoutez bien, je vais vous lire un autre texte. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, ça dit « Nous renversons les raisonnements, nous les renversons et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je les renverse et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il y a une pensée qui arrive, je crois que c'est Kenneth Hagin qui avait dit ça, « Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de venir mettre un nid sur votre tête. » C'est vrai ça. Vous pouvez l'empêcher de vous donner ces pensées-là et ben, vous pouvez vous empêcher de méditer sur ces choses-là. Donc, ça dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes vos pensées, vous les emmenez à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, je les arrête. Cette pensée-là ne vient pas de Dieu, elle vient du royaume des ténèbres et puis je l'arrête au nom de la loi de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Je t'arrête au nom de Jésus. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Je t'arrête et je te prends captif au nom de Jésus. C'est ça que ça nous dit. Et tu vas obéir ce que Dieu a dit. Ça prend un peu de spunk. En français, c'est quoi? Quelque chose d'autre. Amen. Nous amenons toute pensée, ça dit pas juste celle que ça vous tente, là, mais toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ça veut dire toutes les pensées qui rentrent en vous, vous devez les trier au nom de Jésus et dire, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Et ça, là, toi, là, tu vas quitter ma vie. Amenez vos pensées captives à l'obéissance de Christ ou laissez vos pensées vous rendre captifs de l'ennemi. Je vais le dire comme pasteur Alain Patrick, ça a passé au-dessus de vous. Je vais le redire. Amenez vos pensées captives à l'obéissance de Christ ou laissez vos pensées vous rendre captifs de l'ennemi. Qu'est-ce que vous voulez? Être en charge ou être sous la domination du diable? On va être en charge, n'est-ce pas? Et on va dominer sur l'ennemi. Amen. Donc, la bonne nouvelle, on a la pensée de Christ maintenant, dans 2 Corinthiens 2,16. Et nous avons ce droit et l'appel que Dieu nous donne d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hallelujah! Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour un autre point? La sagesse divine recherche des conseillers précis qui auront la pensée de Christ. Si on sait que ça nous appartient, la pensée de Christ, et si je comprends que la pensée de Christ dans ma vie va changer le parcours de ma vie, bien, je vais trier mes conseillers dans ma vie. Je vais vraiment faire attention. Admettons que vous avez une maladie, vous allez voir un médecin et puis il vous donne une recommandation, c'est une chose. Vous allez voir un guérisseur dans le monde du voodoo, je ne sais pas, puis vous allez voir une autre personne, vous allez voir un autre charlatan, je ne sais pas, je ne connais pas le domaine des charlatans, là, mais vous allez voir 10 personnes qui sont tous dans leur milieu différent, puis finalement, vous allez être confus, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir de bons conseillers. Mais premièrement, établissons que Dieu veut qu'on soit entouré de bons conseillers. Dans Proverbes 11, verset 14, ça nous dit « Le salut ou la délivrance est dans le grand nombre de conseillers ». Donc, Dieu est pour ça, lorsqu'on est entouré de bons conseillers. Et dans Proverbes 15, verset 22, ça nous dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Pourquoi ça? Parce que, si admettons, quand on ne consulte personne, quel type de personne ne consulte personne? C'est une personne orgueilleuse, n'est-ce pas? Qui pense tout savoir. C'est vrai? N'est-ce pas? Si on ne demande jamais l'avis de personne, on dit « Ben non, non, moi, là, je suis connecté avec Dieu, là, puis non, je n'ai pas besoin de personne. » Ça, c'est d'être arrogant. Mais si je réalise, ben, je crois que Dieu m'a parlé, mais je vais peut-être demander à mon frère ou ma sœur, puis dire, je ressens dans mon cœur que Dieu m'appelle à faire telle chose, et là, on peut avoir l'avis et l'encouragement ou peut-être des avertissements par ces personnes-là que nous aimons, que nous respectons. Amen. Mais ça dit, quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Bon, ça, c'est une bonne chose. Donc, vous croyez dans les conseillers? Est-ce que c'est bon d'avoir des conseillers dans notre vie? Amen. OK. Maintenant, il faut faire attention, par contre. Et c'est là où Dieu va sauver votre destinée aujourd'hui. Je crois. Si vous croyez aujourd'hui que Dieu peut vous donner le discernement au niveau de vos conseillers, ça va vraiment vous aider. Parce que Dieu vous appelle à avoir des bons conseillers et des mentors dans la foi qui vont vous aider à aller plus haut. Amen. Dans Ésaïe 19 et le verset 11. Ça, c'est un verset assez intéressant. Ésaïe, chapitre 19 et le verset 11. Ça nous dit, « Les princes de Soan ne sont que des insensés. Les princes de Soan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil de stupides. » Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil de stupides. Voulez-vous avoir beaucoup de conseillers stupides dans vos vies? Non. Hein, on ne veut pas des conseillers stupides. Parce que les conseillers stupides vont nous envoyer dans un mauvais chemin, n'est-ce pas? Donc, si vous demandez toujours des questions à quelqu'un, OK, puis votre chair va peut-être rechercher des conseillers charnels. La chair attire la chair. Amen. Écoutez bien ceci, c'est très important. Parce que votre chair veut être acceptée. Je veux être moi-même. Et Dieu dit, non, je veux que ta chair meure. Comprenez? Donc, la chair doit mourir. Ce que j'ai besoin, c'est que mon esprit domine sur ma chair. Puis être moi-même, bien, c'est merveilleux être le moi-même lorsqu'on est transformé à l'image de Christ. Et là, on n'est plus vraiment nous-mêmes, on est comme Christ. On ne veut pas être nous-mêmes, on veut être comme Christ. Parce que le nous-mêmes est charnel. Il est rebelle. Il va rouspéter, il va critiquer, se plaindre. Ça, c'est le nous-mêmes. Mais on va être comme Christ. Amen. Donc, la chair va rechercher des conseillers qui vont s'accorder avec moi dans ma rébellion. Ils vont s'accorder avec moi dans un chemin charnel. Et là, je vais me sentir, oh, moi, là, je suis compris. Quelqu'un me comprend. Pour une fois, je suis compris. Et là, je suis compris et je suis comme soulagé même. Parce que j'ai plein de gens qui vont m'acclamer. Ils vont dire, tu fais bien, tu fais bien. C'est bien vrai ce que tu dis. C'est bien vrai. Et finalement, on est encouragé, mais au lieu d'aller vers le haut, on s'en va vers le bas parce qu'on s'est accordé avec des conseillers charnels. Hallelujah! Oh, gloire à Dieu! On ne veut pas des conseillers stupides. avant même d'appeler quelqu'un, si vous avez besoin d'un conseil, choisissez, est-ce que cette personne-là est consacrée à l'Éternel? Est-ce que c'est une personne qui a une crainte de l'Éternel? Est-ce qu'elle va me dire la vérité, même si ça peut me choquer? Et puis, est-ce que je suis prêt à prendre son conseil, même si ma chair dit non? Si vous prenez le téléphone, vous voulez parler à un conseiller. En passant, le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu nous appelle à vivre dans la famille de Dieu. Donc, on peut appeler un frère, une sœur des fois, et dire, je suis dans une situation ici, est-ce que tu peux me donner ton avis selon le cœur de Dieu? Et la personne vous dit, je crois ici, ça peut être un danger, peut-être tu devrais faire telle chose. Et moi, je l'ai faite. Il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à certaines personnes, ici, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je suis charnel dans cette situation-là? Est-ce que je suis charnel ou qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et puis, on était honnête en retour parce que je ne veux pas être charnel. Parce que des fois, vous savez, on est des êtres humains puis des fois, on a du mal. Est-ce que je suis charnel là-dedans ou est-ce que c'est vraiment Dieu? Donc, mais je n'appellerai pas quelqu'un qui vit dans le péché parce que je me dis, peut-être les conseils ne seront pas vraiment bons, n'est-ce pas? Et je veux évaluer la vie de la personne. Est-ce que la personne qui me conseille, que je vais qui va me donner des conseils, est-ce que cette personne-là est en train d'être transformée par Christ? Est-ce qu'elle vit des percées dans sa vie? Ou est-ce qu'elle tourne en rond dans sa vie? Est-ce qu'elle retourne en arrière? Est-ce qu'elle vit dans le péché? Je veux discerner avant de même poser la question. Donc, je prends le téléphone. Avant même, j'ai déjà évalué, est-ce que cette personne-là est proche de Dieu? Est-ce qu'elle est consacrée? Est-ce qu'elle est vraiment en amour avec Jésus? Et est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Si elle a la crainte de Dieu, bien déjà là, c'est bien parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Donc, elle devrait me donner des conseils sages. Amen. J'appelle la personne et puis elle me dit quelque chose que je ne veux pas entendre. Mais déjà, avant d'appeler, j'avais évalué que cette personne-là, j'avais discerné que cette personne-là était pour me parler au nom de Dieu. Là, j'ai le choix, puis je peux dire, OK, j'accepte ce que tu me dis. Et la chair peut-être dit, j'aime pas ça, c'est pas ça. Mais l'esprit dit, c'est la bonne réponse. Je vais méditer là-dessus. Là, vous priez, vous demandez à l'Esprit de Dieu vraiment de confirmer cette chose-là. Et là, vous marchez avec Dieu. Et puis votre chair crie, fait un tantrum, se pitch à terre, fait des non, comme des petits bébés, là. Des petites crises de nerfs. Votre chair fait ça, mais c'est correct. Votre chair a ramasse de crises de nerfs en réserve. Puis là, vous démontrez, c'est qui a la victoire? C'est qui domine ici? C'est l'Esprit de Dieu, dans mon esprit, qui domine dans cette situation-là. Amen. Donc, écoutez les voix des conseillers qui vous aiment. Moi, je ne demanderai pas des conseils à quelqu'un que je sais ne m'aime pas. N'est-ce pas? Allez-vous demander des conseils à quelqu'un que vous savez vous déteste? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec ma vie, toi qui me détestes? Ben, je pense que tu devrais faire ça. N'est-ce pas? Non, mais on va demander des conseils de quelqu'un qu'on sait nous aime. Parce qu'il veut notre bien. N'est-ce pas? Ils veulent notre bien. Des gens qui vous sont loyaux, qui veulent votre réussite. Des gens, si vous disent quelque chose, puis ça vous dérange, mais ils veulent votre réussite, ils vont vous dire la vérité parce qu'ils savent c'est pour ton bien, puis je crois dans la victoire pour toi, je crois dans ta réussite. Des gens qui croient en vous. Recherchez des conseillers comme ça, des gens qui vous aiment, qui croient en vous, qui vous aiment, qui veulent votre réussite. N'écoutez pas les conseillers qui vous méprisent. Des gens qui veulent toujours vous critiquer, vous abaisser. Ces gens-là ne sont pas pour vous. N'écoutez pas ceux qui diront toujours comme vous non plus. Des conseillers qui disent toujours oui. Ce n'est pas les conseillers que vous voulez. Vous voulez des gens qui vous aiment assez pour vous dire la vérité. Amen. Aussi, évitez les conseillers qui cherchent à vous manipuler, pour tirer un gain de votre vie. Il y a des gens qui sont là dans vos vies, et peut-être la raison pourquoi ces gens-là sont là, c'est pour avoir quelque chose de votre vie. Discernez vos conseillers. Il y a un temps, des fois dans une vie, on doit dire, OK, j'ai eu des conseillers pendant un temps, mais je dois évaluer, est-ce que cette personne-là est vraiment en feu pour Jésus? Est-ce que cette personne-là ou ces personnes-là que j'ai dans ma vie, est-ce que ces gens-là sont vraiment consacrés? Est-ce que c'est des gens de prière, d'engagement? Est-ce qu'ils vivent vraiment pour plaire à Dieu? Ou est-ce qu'ils vivent leur plan et puis Dieu est en second ou troisième rang? Frères et sœurs, ce que je viens de vous dire là, c'est tellement simple, mais c'est la clé de votre victoire à bien des niveaux. Parce que vous faites discerner vos conseillers. Si moi, je voulais investir de l'argent, admettons, j'irais voir un spécialiste dans le domaine des finances, n'est-ce pas? Quelqu'un qui connaît et quelqu'un aussi qui a eu de bons résultats. Bon, si je voulais me faire de la chirurgie plastique, ça n'arrivera pas, là. Mais admettons, j'irais voir quelqu'un qui a eu du succès, n'est-ce pas? Je pense que je voudrais voir des catalogues. Le nez est rendu sur le bord. Peut-être que c'est pas toi, là. N'est-ce pas? On va dire, ben c'est peut-être pas lui. J'aime le nez positionné dans le centre du visage. On irait voir quelqu'un de spécialisé, quelqu'un qui a eu du succès, donc quelqu'un digne de confiance. Mais vous allez demander des conseils de quelqu'un, vous demandez des conseils à quelqu'un qui ne réussit pas dans tel domaine ou qui vit d'échec en échec. Puis là, après, vous êtes dans l'échec. Puis vous êtes triste et malheureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste et malheureux. Dieu, aujourd'hui, vous dit peut-être simplement, « Je t'appelle à discerner tes conseillers. » Est-ce que ça veut dire qu'on va balayer les gens et dire « Je ne veux rien savoir de toi? » Remarquez ceci, Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Dieu vous appelle à aimer tous les gens, même vos ennemis. Dieu vous appelle à aimer tout le monde. Savez-vous, moi, je n'ai pas d'ennemis dans ma vie. Parce que pour avoir des ennemis, il faut être un adversaire de quelqu'un. Il y a des gens peut-être qui se diraient mon adversaire, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas en guerre contre personne. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous ». Donc, c'est ça mon cœur, je veux être en paix avec tout le monde. Mais il y a un point dans notre vie aussi, on doit discerner les conseillers et les amitiés qu'on va avoir dans nos vies. Est-ce que ça veut dire qu'on déteste? Non, il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde, mais on peut aussi dire « J'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de protéger l'onction de Dieu sur ma vie ». Vous avez besoin de protéger l'onction de Dieu sur votre vie. Parce que Dieu vous a donné des mandats et un appel sur votre vie. Dieu vous a donné une onction pour l'appel que Dieu vous a donné. Si dans votre environnement, dans votre entourage, vous avez toujours des gens qui méprisent l'appel de Dieu sur votre vie, vous dites « Dieu m'a dit telle chose », ben, je ne crois pas ça là. Puis vous êtes obligé de débattre avec la personne pour prouver que Dieu vous a parlé. Vous ne voulez pas dans vos vies des gens qui sont toujours en train de douter ce que Dieu vous a dit. C'est vrai ça. Ça ne veut pas dire que si vous triez dans votre vie, que vous détestez les gens. Non, c'est que Dieu vous appelle à être sélectif. La sagesse nous appelle à être sélectif. Ça nous appelle à côtoyer les gens qui vont nous emmener vers le haut, pas les gens qui vont nous tirer vers le bas. Quand Dieu vous parle et vous dites « L'Esprit de Dieu m'a parlé, m'a dit telle chose », vous voulez des gens qui vont peut-être vous remettre en question, mais pas toujours. Qui vont dire, je crois que tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Je crois que tu es une personne à l'écoute de Dieu. Et je vais prier pour toi. Puis s'il y a des lieux, des portions peut-être qui ne sont pas encore claires, on va prier ensemble pour que Dieu précise les choses. Amen. Alléluia. Dans Proverbe 23, verset 9, c'est dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Frères et sœurs, vous êtes tellement précieux pour Dieu. Votre destinée ne vient pas de vous, votre destinée vient de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a donné des dons et des talents et un appel sur votre vie. Ce que vous avez reçu de Dieu, c'est tellement précieux, mais il faut agir avec sagesse pour que vous puissiez entrer dans ce que Dieu vous appelle à faire. Il faut entrer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Mais on peut se détourner de cet appel si on écoute les mauvaises personnes. Si on écoute les mauvaises personnes, et puis, comme j'ai dit, si on se compare constamment aux autres, ça peut nous diriger vers le bas. Si on pense que nos pensées sont au-dessus des pensées de Dieu, non, on doit dire, des fois, ça ne fait même pas de sens, mais Dieu, tu le dis, je vais le faire. Et puis, comme je marche dans la crainte de l'Éternel, la porte de l'ennemi est fermée, gloire à Dieu, et je peux vraiment entrer dans ma destinée. Et là, après tout ça, j'ai invité l'équipe de la louange maintenant, vous pouvez vous approcher s'il vous plaît. Après tout ça, on dit « Seigneur, ok, des choses que je veux changer dans ma vie, mais comment est-ce que je peux vraiment vivre ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui? Comment est-ce que je peux vraiment arriver à cette place et vivre plus de cette sagesse qui m'appartient? En fait, c'est comme mon héritage en Christ. Tout simplement, ce que vous avez besoin de faire, c'est simple, c'est demander. Demander la sagesse de Dieu. Demander la sagesse de Dieu. C'est mon dernier verset. Dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6, ça nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu va me donner la sagesse si j'en ai besoin, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé à côté, et poussé de côté et d'autre. » Voyez-vous, on demande avec foi, « Seigneur, je veux ta sagesse, je veux la sagesse divine, aide-moi à trier les choses dans ma vie. Aide-moi à marcher avec toi, à marcher vraiment dans cette crainte de l'Éternel. » Je sais que Dieu nous appelle à vivre des expériences phénoménales dans sa présence. La gloire de Dieu descend. Alléluia, Dieu veut ça. Et Dieu s'en vient chercher son épouse. Mais Dieu veut cette épouse protégée. Il veut protéger son épouse parce qu'il l'aime. Dieu aime cette épouse. Et Dieu vient chercher cette épouse glorieuse. Gloire à Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il prépare son épouse. Il prépare son épouse. Et des fois, vous savez, on est revêtu de vêtements blancs, mais des fois, il faut enlever les vêtements qui viennent d'un autre royaume et dire, « Seigneur, oh, je me décharge de ce vêtement de critique. Je me décharge de ce vêtement de mépris. » Ou peut-être les attaques. J'ai peut-être plein de couteaux dans mon dos, on dirait. J'enlève ces choses-là au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je me laisse purifier par toi dans le sang de l'agneau et je me laisse totalement changer, transformer. Et là, mon esprit domine sur la chair et j'avance et je reçois les promotions de Dieu. Je ne tourne pas en rond, je ne recule pas, j'avance avec mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Des fois, dans des messages simples comme ça, c'est des messages les plus puissants. Parce que c'est là où on change notre vie avec l'aide de Dieu. C'est là où on entend quelque chose pour changer le parcours de nos vies. La sagesse de Dieu. Être sage. Vous n'avez pas besoin d'attendre 75 ans pour devenir sage. Vous avez la pensée de Christ, la perspective de Dieu en toutes choses. La perspective de Dieu vous garde toujours dans le chemin de Dieu. La perspective de Dieu en toutes choses. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que cette décision que je dois prendre, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de ma chair? Parle-moi, Seigneur Dieu. Alléluia. On vient de dire au Seigneur, on veut entendre ton cœur nous parler. On veut entendre son cœur nous parler. Alléluia, gloire à Dieu. Je m'en allais inviter l'équipe pastorale. Gloire à Dieu, donc ça doit être de Dieu. Ça va être de Dieu, je pense, c'est ce que tu vas dire. J'aimerais ça inviter les autres pasteurs aussi. Ce que j'aimerais faire, tous ceux qui veulent vivre quelque chose avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, puis vous êtes prêts à dire, je te donne une carte blanche, Seigneur Dieu, avec ma vie. Je te laisse me parler ce matin. Venez en avant ici, puis c'est juste une décision, Seigneur, je te laisse me parler aujourd'hui. Je suis prêt à te donner carte blanche. Tu te révèles à moi comme tu veux. Amen. Puis venez ici. Puis si Dieu vous dit, change des choses, il y a des choses ici à changer, vous dites, Seigneur, je le veux. Je veux que tu me parles ce matin. C'est juste ceux qui ont les oreilles ouvertes. Si Seigneur, viens me parler. Amen. Donc, toute l'équipe pastorale vous fait venir en avant sur la plateforme. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Puis, Pasteur Jérémy, il y a une parole.
Ce matin, j'ai lu rapidement un passage qui se trouve dans 1 Roi au chapitre 13. Et on a chanté pour voir la gloire de Dieu. Et pour voir la gloire de Dieu et pour entrer dans le succès de Dieu, il y a une chose vraiment à obéir et à faire, c'est obéir scrupuleusement à la parole de l'Éternel. Et le vrai succès dans la vie, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu exact pour notre vie. Et parfois, si nous n'accomplissons pas parfaitement ce que le Seigneur voulait pour nous, mais si nous sommes effectivement mal conseillés, c'est à ce moment-là que nous vivons des déceptions et de l'échec. Et le premier verset que le pasteur a partagé aujourd'hui, c'est dans Psaume, et c'est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? C'est en se dirigeant d'après ta parole. » Et effectivement, même si nous pouvons avoir des conseillers, le plus important, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et dans 1 Roi, chapitre 13, ce matin, j'étais en train de lire ça, et c'est vraiment un passage étonnant. Il y a un prophète de Dieu qui arrive, et il va parler contre Jéroboam. Et là, cet homme, Jéroboam, va vouloir se soulever contre le prophète qui avait parlé d'une façon précise. Et finalement, la puissance de Dieu va se manifester. Et Dieu avait dit à ce prophète, « Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Dieu avait dit ça à ce prophète. Et alors Jéroboam a commencé à lui proposer, « Viens à la maison, viens manger et viens boire avec moi. » Et le prophète a dit non, car Dieu m'a dit, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, et tu partiras par un autre chemin par lequel tu es arrivé. Et là, ce prophète a voulu obéir scrupuleusement à la parole de Dieu. Il s'est dit non, Dieu m'a dit, je ne veux pas manger, je ne vais pas boire, je vais rentrer par un autre chemin que par lequel je suis entré. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose d'étonnant. La Bible dit, or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Et là, il y a un de ses fils qui va lui raconter ce qui s'est passé, comment l'autre prophète est venu, comment il a parlé contre Jéroboam et ce que le Seigneur lui a dit. Et là, cet homme prophète, ce vieux prophète, va aller retrouver ce jeune prophète et il va lui dire une parole, il va dire « Mais viens avec moi à la maison pour manger. » Et le jeune prophète va dire « Non, je ne peux pas retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau. » Et je partirai par un autre retour selon la parole que l'Éternel m'a donnée. » Et là, cet homme, ce vieux prophète, et on ne sait pas pourquoi exactement il a dit ça, est-ce qu'il était aigri ou je ne sais quoi, mais il lui a dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » La Bible dit, « Il lui mentait. » Ça, c'est un mauvais conseiller. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais qui disait et qui se faisait porter le nom de prophète. La Bible dit, l'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au vieux prophète qu'il avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu, donc au jeune prophète, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, il va se faire tuer par un lion en repartant. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas accompli la parole de Dieu. Et il n'avait pas obéi scrupuleusement à ce que l'Esprit avait mis dans son cœur. Et ce matin, je ressentais vraiment l'esprit de la parole, et je ne sais pas si c'est pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un dans l'équipe pastorale ou pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui, mais par rapport au plan que Dieu a mis dans votre vie. Il y a des plans que Dieu a mis dans notre vie, et la façon de les accomplir, c'est le Seigneur qui nous montre et qui nous a montré comment le faire. Et le succès dans ce que Dieu nous a montré et ce qu'il nous montrera peu à peu alors que nous allons avancer, le succès que nous allons voir, c'est selon l'obéissance que nous allons porter à la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ont échoué dans leur vie parce qu'ils n'ont pas obéi scrupuleusement à ce que le Saint-Esprit avait dit et parce qu'ils ont écouté de mauvais conseillers ou alors parce qu'ils ont écouté des fausses prophéties. Il y a des fausses prophéties qui ont fait perdre beaucoup d'années à des gens. Des gens qui marchaient avec Dieu, des gens qui étaient parfois dans le ministère et qui avaient reçu quelque chose dans leur cœur, de faire quelque chose. Et il y a un prophète, il y a un homme, il y a un évangéliste, il y a quelqu'un qui est venu et qui a prophétisé quelque chose qui n'était pas selon le plan de Dieu. Et ça, c'est étonnant, mais ça fait mal. Et parfois, vous recevez des plans de la part de Dieu et il y a plein de gens qui viendront vous dire « Non, ça ne marchera pas. Non, tu devrais faire ceci. Non, tu devrais faire cela. » Alors que le Saint-Esprit vous a parlé clairement. Il y a des choses que Dieu m'a dites dans ma vie et il y a des gens qui ont parlé contre ce que Dieu m'avait dit. Que ce soit pour les livres que j'ai écrits, il y a eu des gens qui ont parlé contre ces livres, contre la façon de faire les livres, même contre des choses simples mais que le Saint-Esprit m'avait données. Et pourquoi j'ai vu du succès en cela? Parce que j'ai fait selon ce que l'Esprit m'avait dit. Il y a des gens parfois, ils ont à cœur d'annoncer l'Évangile dans les rues. Et il y aura 1 million de chrétiens pour leur dire « Non, ça ne marche plus. » Et qui a dit que ça ne marchait plus? Non, tu devrais faire ceci et cela. » Il y a un homme de Dieu, à l'époque où il commençait à avoir dans la rue là, des tentes d'évangélisation, c'était vraiment la mode dans le monde évangélique, tout le monde commençait à faire des tentes pour évangéliser dans les rues et en extérieur. Et cet homme de Dieu, je crois que c'est Kenneth Hagin, partout où il allait prêcher, à chaque fois qu'il allait prêcher, Il y avait une prophétie dans l'église qui disait « Oui, toi, l'homme de Dieu qui prêche aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à faire des tentes pour annoncer l'évangile. » Et partout, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, partout où il allait. Et ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et s'il avait écouté ces paroles-là, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu dans les mois qui ont suivi. Tout ça pour dire que nous savons en nous-mêmes, oui, nous avons la pensée de Christ. Et le Saint-Esprit nous inspire. Et c'est vraiment important de marcher selon ce que le Saint-Esprit a mis dans vos cœurs. Et la parole que j'avais, c'est qu'il y a plusieurs personnes, il y a peut-être une personne, des personnes. Vous avez un plan, quelque chose à faire, que ce soit par rapport aux âmes, que ce soit dans votre travail, que ce soit une vision, un plan particulier. Et le temps passe et vous ne faites absolument rien. Et vous avez peut-être été mal conseillé, peut-être vous avez entendu encore quelque chose, mais Dieu vous dit c'est le temps et c'est le moment. Et il faut vraiment marcher selon ce que le Saint-Esprit vous a dit de faire. Parce qu'on a chanté pour voir la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu va se manifester seulement dans la crainte de l'Éternel. Et rappelez-vous que Saül, Dieu lui avait demandé de faire quelque chose de précis. Et là, Dieu a parlé à un autre prophète pour lui dire « Mais tu n'as pas accompli la parole de l'Éternel. » Et lui, il a dit « Oui, mais c'est le peuple, il a voulu prendre ceci, il a voulu prendre cela. » Il s'est fait mal conseiller. Et lui-même n'a pas obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. À cause de ça, il a perdu son ministère, c'était fini. Obéir scrupuleusement à la parole de Dieu. Il y a une chose que Dieu m'a dite, c'est très simple. Mais quand j'ai écrit mon premier livre, je priais par rapport au format de ce livre, à l'image du livre. Et un soir, j'ai eu un rêve et j'ai vu le format de mon livre. C'est un format encyclopédie. Et il n'y a aucun livre chrétien que j'ai vu avec des formats encyclopédie, et d'ailleurs qui font 600 pages. Il n'y a que des livres normaux, format roman habituel. Et Dieu m'a parlé. Et quand j'en ai parlé, il y a eu des personnes qui m'ont conseillé, etc. Et c'est bien de conseiller les autres. Et j'aurais pu les écouter et passer à côté du succès de Dieu en me disant « Mais non, ça ne s'est jamais fait. » Et j'ai remarqué dans ma vie, et j'ai remarqué en parlant avec des gens, que souvent, les gens se disent quand Dieu leur parle « Oui, mais ça ne s'est jamais fait. » Mais c'est justement là que Dieu va se glorifier. Les gens disent « Oui, mais avec lui, ça n'a pas réussi. » Mais c'est justement comme ça que Dieu va se glorifier. Il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Donc vraiment, l'encouragement du cœur de Dieu, c'est d'accomplir scrupuleusement ce qu'il a mis dans ton cœur. De ne pas écouter les mauvais conseillers. Oui, d'être ouvert aux bons conseillers, mais surtout d'être ouvert à ce que le Saint-Esprit t'a dit et de commencer à avancer là-dedans.
J'ai reçu quelque chose dernièrement et j'ai encore ça à vous partager ce matin. Chacun de nous, merci Seigneur, nous avons la foi. Amen? Peut-être que ça ne paraît pas, mais nous avons la foi. Mais quelqu'un dernièrement a donné une définition de la foi. Et c'est la force d'obéir inconditionnellement. Et ça m'a resté. Et merci Seigneur que même que ça ne paraît pas aux yeux des gens, mais lorsque vous priez avec, c'est la prière de la foi. OK? Et lorsque vous avez, Dieu vous donne la force d'obéir inconditionnellement. Et chose à s'assurer que lorsque vous priez avec tout votre cœur, Dieu va se manifester. OK, c'est peut-être cet après-midi, peut-être c'est demain matin, mais je vous garantis, les choses vont changer. Amen? Parce que Dieu est vivant. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'on entend qu'est-ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et l'Église, c'est vous. Et lorsque vous priez simplement, comme un enfant, il n'y a pas de parole plus simple qu'un enfant, mais Dieu honore cette parole-là. Et lorsque vous dites, Seigneur, merci pour la foi que tu m'as donnée, et peu importe ce que tu me dis, savez-vous que ça va être parfait, agréable, et comme la Bible dit, hein, ça va vous faire comme un gant. Fait qu'inquiétez-vous pas, il ne vous demandera pas de partir en Chine demain matin. Non, non, non. Il va répondre au cri de votre cœur. Amen. Et quand vous êtes, lorsque vous avez prié ce matin, faites-vous-en pas. Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour que vous puissiez voir comment cette cette prière est vraiment efficace et vous allez continuer cette parole d'enfant que vous avez à partager. Juste dire dans votre lieu secret. Vous en avez un sûrement. Et si vous n'en avez pas, ben trouvez-en un. Que vous êtes toute seule et juste dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et Seigneur, par la foi, je vais marcher avec toi. Et vous savez-vous, les choses vont changer. Assurément. Amen. Et que, rappelez-vous de cela, la foi, c'est la force d'obéir inconditionnellement. Et vous allez voir des choses se passer dans votre vie que vous n'avez jamais, 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 jamais même imaginé. Mais que Dieu est prêt à vous envoyer sa bénédiction en abondance dans votre vie. Et vous allez dire, « Wow! Si j'aurais juste fait ça, ça aurait été merveilleux. » Et ce matin, je vais prier pour vous autres. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que toutes ces paroles dites dans notre cœur, pas Seigneur sur le bout des lèvres, mais de notre cœur, Seigneur, que ce soit des paroles puissantes, des paroles d'action, des paroles de décision, d'obéir inconditionnellement à ce que tu as déposé dans notre cœur. Et merci Seigneur pour cette victoire qui m'appartient ce matin. Et Seigneur, je m'attends de voir ta gloire éclater dans ma vie personnelle parce que j'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. Amen. Là, ça nous donne une raison d'être heureux parce qu'on sait que Dieu agit. Il agit sur sa parole. Et donc, on a invoqué son nom ce matin. Gloire au Seigneur.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Rappelez-vous que le succès dans la vie se trouve dans la réalisation des promesses de Dieu et que certainement Dieu vous appellera à faire quelque chose de différent. Qui avait construit une arche et pourtant Dieu lui a parlé? Qui avait ouvert la mer en deux à l'aide d'un bâton? Qui avait appliqué en crachant par terre de la boue sur les yeux d'un aveugle? Dieu nous appellera tous à faire des choses que personne n'a jamais faites et des choses différentes. Et c'est souvent là que Dieu va se glorifier, rappelez-vous-en. Alors faites et accomplissez selon la parole de Dieu et dans la foi, comme l'a dit le pasteur Wallace.
Je sens une onction particulière pour la consécration. Et l'Esprit de Dieu veut toucher plusieurs personnes aujourd'hui. S'il vous plaît, levons nos mains. Le Saint-Esprit parle maintenant du lieu secret. Du lieu secret où il veut que tu passes du temps dans la présence de Dieu avec ton Seigneur, à prier et à méditer sa parole. Dans la Bible, le Seigneur a donné une parabole. Il a dit qu'il a invité un grand nombre de ses amis à un banquet. Pour discuter avec eux, pour avoir du temps avec eux, pour manger avec eux. Et tous ont trouvé des excuses. J'ai un bœuf que je viens d'acheter, je dois labourer mon champ. Ici, ça parle de travail. Et Dieu, il dit, il y a une onction particulière en ce moment. Il veut toucher ton cœur par rapport au travail. Tu as trop travaillé. Tu t'es trop donné à labourer ton champ avec ton bœuf. Et il te demande de renoncer au surplus du travail maintenant pour entrer dans ce lieu de l'intimité. D'autres personnes ont parlé, ont donné des excuses. Je viens de me marier, je dois profiter. D'autres ont donné des excuses de divertissement et de loisirs. Et il y a trop de choses dans nos vies qui nous volent cette communion intime avec Dieu, qui volent ce lieu secret. Mon frère, ma sœur, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de spécial en ce moment même à la consécration dans ta vie. Dieu veut démarrer une nouvelle saison dans l'intimité avec lui. Dieu veut démarrer un nouveau temps dans l'intimité avec lui. Et ne te dis pas, j'ai essayé tellement de fois, J'ai dit, oui Seigneur, je lève mes mains, je me consacre, et puis après, je suis retombé. Ça n'a pas marché, ça n'a duré que quelques jours. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Et il veut te dire qu'il veut te retrouver dans ce lieu secret, ce lieu d'intimité chaque jour. Il veut que tu retrouves cette passion pour la parole et la méditation de la parole où il va te parler. Il veut que tu fléchisses le genou dans ce lieu secret, dans cette présence intime avec lui, et il va te parler, il va se révéler à toi. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Tu vas entendre la voix de Dieu que tu n'as jamais entendue. Tu vas avoir les dons de l'Esprit qui vont s'animer. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues dans les choses de l'Esprit. Tu vas faire des rêves que tu n'as jamais faits. Parce que Dieu t'aime et Dieu t'appelle. Mais il y a tellement de choses dans ta vie. Et maintenant, l'Esprit de Dieu te montre ces choses. À cet instant précis, il te les montre. Elles défilent devant toi. Ces choses chaque jour que tu fais qui sont vaines, ces choses qui n'ont pas une grande utilité, et tu te dis chaque jour, je suis fatigué Seigneur, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Dieu te dit aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Prends cette décision maintenant, prends-la profondément, celle de me poursuivre, celle d'aller dans ce lieu secret, celle de redécouvrir une intimité profonde avec moi. Il y a des personnes ici qui doivent renoncer à certaines choses pour suivre Jésus, certaines choses vaines, certaines passions inutiles, certains jeux vidéo, certains Facebook, certains temps sur les réseaux sociaux. Et Dieu est sérieux en ce moment même. Il est très sérieux. Il y a quelque chose qui peut se passer dans ta vie maintenant même. Maintenant même. Si tu ouvres ton cœur et tu prends la décision de renoncer, ces choses ne te domineront plus, mais tu les domineras. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part maintenant. Demande à Dieu. Il t'ouvre tes yeux maintenant, ces choses défilent devant toi, toutes ces choses qui volent ton temps et cette intimité avec lui. Mets-les sur le pied de l'autel maintenant. Mets-les sur l'autel du sacrifice. Renonce. Quelque chose doit être brisé au-dedans de toi. Renonce à toutes ces œuvres mortes. Renonce à ces passions. Renonce à ces convoitises de la chair maintenant, parce qu'il y a un grand appel au lieu secret. Dieu t'invite, et j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant, Mathilde, s'il te plaît, le chant qu'on chantait. Et frères et sœurs, ne négligez pas ce moment. Ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît, et pendant qu'on chante ce chant, parlez à Dieu. Parlez à Dieu, si vous avez envie de vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Mais prenez, s'il vous plaît, une ferme décision. Celle de vous donner plus. Celle d'aller plus loin. Celle de redécouvrir votre Dieu. Et le Saint-Esprit vous aidera. Renonce maintenant, ma sœur, à ce péché. Réponds à cet appel, ma sœur. Il vole ton temps, il détruit ta vie. Satan t'a séduit, le monde t'a séduit. Mais dépose ces choses sur l'autel, je t'en prie. Donne-toi tout entier, donne-toi tout entier. Ne garde rien. Prends la décision de vivre pour lui. Et tu verras sa gloire. Et tu entendras sa voix. Et tu vivras des choses. Et la voix du Saint-Esprit deviendra limpide pour toi. ne laisse pas ta destinée mourir à cause de choses aussi vaines et inutiles. Je te vois maintenant en train de fléchir le genou chaque soir dans cette pièce et de pleurer devant ton Dieu et de l'adorer, de lever tes mains, de parler en d'autres langues. Je te vois en train de pleurer devant ta Bible comme si elle te parlait. Et Dieu te dit oui, ma parole est vivante. Elle est vivante. Mais tiens-toi au pied de ma parole. Il y a des chaînes qui vont se briser dans ta vie. Au nom de Jésus, renonce maintenant à ces choses qui sont enfouies et enracinées. Au nom de Jésus, renonce. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Donne-les maintenant. Ça te coûtera aujourd'hui. Mais demain, ça te rapportera. Saison nouvelle se lève sur ta vie. Une saison de consécration. Une saison d'intimité. Une saison de révélation. Et les rêves que Dieu avait mis dans ta vie vont revenir à la vie. Parce que c'est dans ce lieu secret que ta vie sera arrosée. C'est dans ce lieu secret où ton Père céleste te voit et te le rendra. Seigneur, tu as dit que celui qui devait te suivre renonce à sa propre vie pour te suivre. Seigneur, nous choisissons de renoncer à toutes ces choses vaines pour te suivre, pour être tes disciples, t'aimer. Saint-Esprit, dépose maintenant une touche particulière. Touche. Une touche, un dépôt dans les cœurs maintenant. Un dépôt à la consécration. Que cette décision soit authentique, profonde, et que plus rien ne vienne le voler. Saint-Esprit, viens nous aider, s'il te plaît. Viens maintenant agir, agir, agir. Ouvre ton cœur, ma soeur, ouvre ton cœur, mon frère. Il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Il va rendre les choses faciles et réelles. Il va raviver. Rafraîchir ton esprit. Tu vas ressentir de nouveau les facultés spirituelles dans ta vie maintenant. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur et reçois, 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 reçois. Il te touche maintenant, il te touche. Reçois, reçois, reçois. Prusata yara masowa le ferri bibibi shamba bariaraba. Il y a des larmes qui montent. Des larmes de repentance, des larmes de regret, des larmes d'avoir perdu tant de temps, des larmes d'avoir eu l'apparence de la piété, mais d'avoir en renié ce qui en faisait la force, l'intimité avec mon Dieu. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Et aujourd'hui, tu choisis la bonne part, celle qui ne te sera pas ôtée. Alléluia.
Ma femme a une parole du Seigneur. Alléluia.
Cette semaine, j'ai fait un magnifique rêve. Et je crois que ce rêve, c'était pour me parler, mais c'était pour vous parler. J'étais dans une maison avec plein de jeunes filles et nous étions vêtues de robes blanches. Et là, je leur ai dit... Vous pouvez la porter à la manière que vous voulez, mais gardez toujours votre robe blanche. Et nous devions rester dans cette maison. J'étais dans une maison et on devait attendre le jour J où l'époux viendrait nous chercher. J'étais tellement excitée. J'étais tellement... tellement heureuse. Et je donnais mes consignes aux jeunes filles. Et je transmettais. Ma joie de la venue du grand jour. Et je crois vraiment que ce rêve-là représentait les vierges. Dieu nous appelle à être des vierges sages. Et Dieu nous appelle à attendre impatiemment son retour parce qu'il est très proche. Et à s'enfermer dans ce lieu secret et ne pas en sortir jusqu'à son retour, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Dieu nous appelle à avoir cette relation intime avec lui et de se revêtir de cette belle parure blanche et pure. La sainteté, la pureté, rechercher ce qui lui est agréable. Rechercher par-dessus tout les choses de Dieu. Garder nos pensées captives à l'obéissance de Christ comme le pasteur nous a prêché. Mais s'enfermer dans ce lieu secret et d'attendre avec impatience ce jour où très, très bientôt, il va revenir.
Gloire à Dieu. Avez-vous été bénis dans la présence de Dieu aujourd'hui? Amen. On va quitter cette place, mais on ne quitte pas sa présence. On reste dans sa présence toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux vous encourager, quand vous quittez cette place, demeurez sensible à sa voix. Demeurez sensible au fait que l'Esprit de Dieu vous dirige et puis vous appelle constamment à être dans sa présence, à vivre avec lui. Amen. Que le shalom de Dieu repose sur vous. Rien de manquant ni de brisé. Au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.